L'introduction est manquée, j'ai mal pitonné. On est en train de voir psaume 39, la fête des pères, un cadeau. Il y a toutes sortes de cadeaux qui sont sur les babillards, les outils, les exerciceurs, tout ça. Mais quel serait le plus beau cadeau qu'on pourrait offrir à papa? Eh bien, ça serait dur à s'imaginer, mais psaume 39 nous en donne une réponse. Parce que le psalmiste qui était lui-même papa, voici ce que lui demande à Dieu. Psaume 39. Psaume 39. Page 427, pour ceux qui ont la même pagination, page 4. Il y a des Bibles? Ah ben, il y avait des Bibles. Donc, il y a une Bible ici, c'est là qui est. Une Bible. Vous serez pas gêné? Là, vous levez la main, puis je peux vous la donner. Si vous n'avez pas votre Bible, on en a une, on peut prêter. Psaume 39, ô chef des chantres à Jédutun, psaume de David. On va faire ceci. Je lis un verset, et ensemble vous allez lire, ceux qui veulent bien, lire le deuxième prochain verset, et ainsi de suite. Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Ensuite, vous, je suis resté muet. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle pause. Oui, l'homme se maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance? Délivre. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche. Car c'est toi qui agis. Détourne. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Pause. Verset 13. Écoute ma prière et je l'ai présenté à mes cris. Je ne veux pas insister à mes larmes, car ce sont les projets chez soi, la victoire de mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Repris. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant ce texte qui est bien sobre, qui est bien lourd même, Seigneur Dieu, mais c'est un texte que tu as inclus dans ta parole pour tes buts. Et je te prie que tu puisses nous éclairer sur ces buts, nous éclairer sur le sens de ce qu'on peut apprendre, de ce qu'on peut appliquer à nos vies. Seigneur Dieu, on te prie, aide-moi de bien communiquer droitement ta parole, Seigneur, et que les cœurs ont un souci et un souci de vérifier, Seigneur Dieu, l'exactitude de ta parole, on te prie. De ce que moi je dis par rapport à ta parole, au nom de Jésus. Amen. Psaume 39. C'est probablement pas un psaume comme le psaume 23 qui est très connu. C'est peut-être un psaume que vous avez lu dans le passé, mais vous vous êtes peut-être pas attardé. C'est un psaume qui, je l'avoue, hein, m'a fait gratter la tête longtemps. J'ai remarqué ce psaume particulièrement il y a à peu près 6-7 semaines après l'échec de mon examen de conduite de bus. Et depuis, j'essaie de le mémoriser. J'avais fini le dernier passage, je cherchais un autre passage à mémoriser. Ok Seigneur, on va s'attaquer sur le psaume 39. Et je vous dis, je lisais avec de grosses interrogations, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas de ce psaume. Et cette semaine, ça commençait à décliquer certaines parties qui me rendaient un peu inconfortable ou qui me suscitaient des questionnements ou de vraiment comprendre pourquoi un tel psaume est dans la Bible. Bien sûr, c'est un psaume personnel de David, mais il n'y a pas d'erreur, c'est inspiré de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui l'a fait inclure dans la parole de Dieu, il n'y a aucune erreur. Ma seule question était, pourquoi un tel psaume dans la parole de Dieu? Il commence tout de suite en disant, je disais, je verrai sur mes voies. C'est bien. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Le psalmiste ici, c'est David, le roi, qui dès son jeune âge, cherchait le Dieu de ses pères, le Dieu vivant, le Dieu créateur. David avait la crainte de Dieu. Il veillait sur ses voies. Et il le dit pourquoi? De peur de pécher par ma langue. Et c'est pas bête de dire ça, bien sûr, c'est pas bête. Parce que, dans le contexte, il dit, tant que le méchant sera devant moi. Donc, il y avait des gros questionnements, des grosses douleurs de cœur en voyant tout le mal qui se faisait sur la terre. Est-ce que nous ne sommes pas témoins de beaucoup de choses? Des meurtres, comme on en a lu cette semaine, d'un étudiant qui simplement, peu importe c'était qui, voulait tuer quelqu'un. Incroyable. La méchanceté, la perversité, cette société qui est esclave de ses passions, le mensonge qui se fait, la tromperie, prendre avantage, profiter des autres, c'est institutionnalisé quasiment, du plus petit de la société jusqu'au plus grand. David voyait tout ça, le méchant, et ce n'était pas comme moi, j'en fais pas partie. Je fais partie de ce monde et j'ai un cœur tortueux et méchant par-dessus tout autant. Je sais que c'est ce que David pensait parce qu'on le voit dans le restant du psaume qu'il ne dénigre pas le fait que lui-même soit coupable. Mais quand il dit « je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue », c'est parce que ça dit dans Lamentations 3:39 « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? » On en voit beaucoup d'injustices, on en subit peut-être, on en cause aussi, si on prend le temps de regarder nos vies. Mais la question que Dieu pose, c'est pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et David devait penser... Je vois tant de mal de ceux qui ne craignent pas Dieu, qui s'adonnent à leur péché sans gêne, sans honte. Mais qui suis-je pour me plaindre de tout le mal qui se fait et qui peut-être me suis fait? David, on a subi des grosses choses. Hein? Ses fils, plusieurs de ses fils se sont rebellés, cherchaient à le tuer. Mais David, toujours, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue, parce que qui suis-je? Moi, est-ce que je suis vraiment en bonne position de me plaindre de n'importe qui? si j'ai de quoi me plaindre, en fin de compte, ça serait sur mes propres péchés. Donc, c'était une raison pour laquelle il voulait veiller sur ses voies pour ne pas pécher par sa langue. Une autre raison qu'on voit dans la Bible, Matthieu 12, 34, dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Alors, David, quand il dit « Je vais veiller sur mes voies de peur de pécher par ma bouche », c'est parce qu'il savait que la bouche allait être l'expression de problèmes qui venaient du cœur. Peut-être l'amertume envers des gens, peut-être la jalousie de ceux qui réussissent à faire le mal et de bien s'en tirer, ou peut-être, etc. Et pour lui, non, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Mais ce n'est pas une solution. Il a voulu simplement dire, chut, on ne dit plus rien. Bouche cousue. Mais ce n'est pas la solution. Il ne faut pas juste éviter de dire des mauvaises choses. Dieu ne nous a pas donné une langue pour qu'on l'utilise jamais. Dieu nous a donné une langue pas pour se plaindre des péchés d'autrui, mais donner un témoignage à Dieu, remercier Dieu, le prier, etc. Il faut dire ce qui est bien. Et donc, lui, ok, il va restreindre. Il ne va plus parler. Ça bouille en dedans. Ah. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tué. Quoique malheureux. Et ma douleur n'était pas moins vive. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas comme ça qu'on va gérer les injustices des gens. Ce n'est pas la situation. Ce n'est pas la solution. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. C'est un peu comme un bouilloire. Un pot qu'on met sur le feu. Avec un cylindre par-dessus, comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. Ce qui couvre le pot. Trop de pression à l'intérieur. Vous savez, normalement, les couvercles, voilà, couvercle, un mot compliqué. J'arrivais plus à me rappeler du mot couvercle. Les couvercles ont un petit trou. Vous avez remarqué ça, les couvercles ont un petit trou. C'est pour laisser sortir la pression. Parce qu'il n'y a pas de trou. Ça fait des sauts, hein, et peut-être un gros saut si ça bouille trop vite d'un coup. Et c'était comme ça, il fallait qu'il parle. Et voici qu'il dit. Ah, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. La chose la plus importante qu'il demande à ce point-ci de sa vie, c'est « Wow, rappelle-moi combien est courte ma vie. Rappelle-moi à quel point est fragile ma vie. » Il a dit, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours. Que je sache combien je suis fragile. Je viens de voir un ami qui a fait un accident de mobylette et il m'a dit plusieurs fois, je suis content d'être en vie. Ah, j'aurais pu y passer. Et des blessures, en fin de compte, il n'était pas. Il aurait pu être beaucoup plus blessé, puis même comme il dit, il aurait pu y passer. David, il veut plus que tout. Dieu, rappelle-moi, dis-moi quelle est la fragilité de ma vie. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Ah, c'est vraiment pas là. Hein, comparé à tout, comparé autour du monde, comparé à hein, quand on se déplace en termes de kilomètres, ben voilà, notre vie. Et David, il voulait avoir le sens, hey, cette vie qu'on voit, les goûts qu'on peut goûter, les merveilleuses choses qu'on peut vivre, les douleurs aussi de la vie,
c'est temporaire. Ça ne dure pas. Pourtant, bon, moi j'en ai 53 des années, ça ne semble pas passer si vite. Mais comparé à l'éternité, si j'arrive à 100 ans, ça serait incroyable. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à 100 ans. Mais qu'est-ce que c'est 100 ans comparé à l'éternité? Là, je ne peux pas le faire parce que vous ne voyez pas, mais
si vous avez déjà voyagé dans le nord et qu'il fait froid un peu, vous voyez une vapeur. Mais quand vous bouillez de l'eau,
vous voyez la vapeur qui puis elle va où? À peine qu'on la voit, elle est disparue. Et David, il voulait avoir le sens. Dieu, rappelle-moi, dis-moi à quel point ma vie, c'est comme une vapeur. On la voit, elle a disparu.
Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il demande une telle grande requête? Parce qu'il observe. Et qu'est-ce qu'il observe?
Mais les gens, ils se dépêchent à vivre. Ils n'ont pas le temps de... Oh, il faut qu'ils vivent.
Vite, pour que j'aille au travail. Vite, pour que je rentre chez nous.
Vite, pour que j'aille jouer au volleyball. Vite, pour que j'aille jouer à la pétanque. Vite, il faut que je me repose. Vite, il faut que... Et on passe notre vie à vivre.
Mais toujours chercher à s'agiter pour vivre.
Et David voit ça, puis il voit tout le monde s'agiter à vivre. Vite, il faut que j'aille à une fête. Vite, il faut que je prenne mes... que j'aille à Carrefour chercher des... Et la vie, c'est juste une série de... Regardez la prochaine chose.
Wow.
Parce que si vous dites, ah, parce que Raymond avait raison, on devrait prendre notre temps dans les choses, on ne devrait pas avoir ce sens d'être agité. Non, ce n'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est ceci.
Mon fils a dit une fois,
il est dans les réserves. Il dit, papa, c'est drôle, dans les entraînements, les fins de semaine, nous sommes venus à l'entraînement. Il faut, c'est un peu comme ceci, vite, 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 pour qu'on attende. Vite, 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 pour qu'on attende. Et oui, puis là, il faut qu'on attende après ça, une heure ou deux, pour que tout soit prêt. Mais il faut, vite, pour qu'on attende. Mais l'idée, c'est pas que, là, ensuite, il faut qu'on prenne plus notre temps, notre appréciation dans toutes les choses qu'on fait. Non, c'est pas ça ce que je dis.
C'est que la vie est remplie de choses et on veut vivre ces choses-là au maximum parce qu'on pense que cette vie, c'est ce qu'il y a.
Alors, c'est une chose après l'autre, même si une chose dure 5 heures, on la vit au maximum, ensuite on pense, ok, maintenant qu'elle est finie, quelle est la prochaine chose? Et on ne veut pas s'arrêter et de savoir vraiment qui est Dieu et quelle est l'éternité qui est en question. On ne veut pas s'arrêter pour réfléchir. Dans ce monde, c'est toujours la musique, c'est toujours la télévision, c'est toujours ceci et ça, et on se remplit la vie de cette vie, et toujours aller d'un événement à un autre. Et David, il voyait ça. Il dit, c'est ça la vie.
Non, Dieu, rappelle-moi, ne me laisse pas être endormi par tout cet agissement.
Rappelle-moi, ma vie est courte et ma vie est fragile.
Et le but, en fin de compte, c'est quoi la vie? Parce qu'il dit,
le vent a tourné la page.
L'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera.
C'est ce que David voit tout autour de lui. Il dit, non, je ne veux pas simplement devenir comme eux.
Alors il dit, maintenant, Seigneur, que puis-je espérer?
Ça, c'est la question de l'homme. À quoi ça sert de vivre? On vit en moyenne 70 ans, puis on prie quoi? Puis... Et humainement, si on s'arrête à cette question,
Mais
regardez,
en toi est mon espérance. En toi. Le Dieu vivant, le Dieu éternel, le Dieu, il n'y a rien de vain en Dieu. Toutes ces paroles s'accomplissent fidèlement. Il n'y a rien de vain en Dieu. Tout à part de Dieu est vain. Ça va, rien ne va rester. Et David il dit, Dieu, c'est toi mon espérance. J'espère pas avoir une meilleure vie, j'espère pas avoir moins d'injustice, j'espère pas... Le sens de la vie est tourné autour de toi. Mais là, il est conscient dans son contexte là. Comme je vous ai dit, il voit le méchant autour de lui, tout le mal qui se fait, mais il n'a pas arrivé à dire « Ah, j'en fais partie !» C'est pour ça qu'il dit « Délivre-moi de toutes mes transgressions » verset 9. « Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé, le fou qui s'adonne à son péché sans espoir éternel et qui fait fi de Dieu, la honte qu'il sème et qu'il va récolter un jour. Eh bien, moi je ne suis pas différent Dieu pour ne pas la mériter, autrement dit. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. » Là, il répète, mais dans un autre contexte, il dit « Je reste muet. » Je n'ouvre pas la bouche. J'ai pas d'excuse pour mes péchés. Là, il parle en termes de quelqu'un qui avait été régénéré, là, qui avait cru en Dieu, qui avait Dieu comme sauveur. Mais lui-même, dans sa vie, et David le roi n'était pas une exception. Il a été selon le cœur de Dieu, la Bible dit, acte 13. Mais l'homme, selon le cœur de Dieu, ce n'est pas un homme qui n'a jamais péché, parce qu'il n'en a pas. Mais c'est un homme qui s'est repenti de ses péchés, qui s'est tourné vers Dieu pour sa rédemption à ce moment-là. Rédemption qui allait venir, Jésus allait venir plus tard. Mais David avait mis sa foi en Dieu le Rédempteur. David avait cherché à marcher dans la crainte de Dieu, mais David avait trébuché, avait chuté à plusieurs reprises, en faisant des choses très graves. L'adultère, le meurtre, l'orgueil de vouloir compter ses armées quand ce n'était pas le temps. 70 000 sont morts suivant cet épisode-là. David avait fait des choses très ignobles. Et il en a récolté aussi beaucoup de douleurs. Mais Dieu l'avait pardonné et Dieu lui a donné sa grâce, mais la main de châtiment de Dieu, à certains moments de sa vie, était très lourde. Et on le voit dans ce contexte-là. Il dit, je reste muet, verset 10, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Dit en fin de compte, je sais que c'est toi, tout ce qui arrive, c'est toi qui l'as commandé, le bien autant que le mal, comme dit Lamentation 3, où quand on a cité de quoi l'homme vivant se plaindrait-il, c'est dans le même contexte que ça dit, c'est Dieu qui est souverain, et le mal qu'on reçoit et le bien qu'on reçoit n'est pas de la part de Dieu. Oui, Dieu, David en ce moment, il savait qu'il avait de lourdes conséquences à ses problèmes, il dit « Délivre-moi de toutes mes transgressions, ne me rends pas l'opprobre de l'insensé, je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis, détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main, tu châties l'homme en le punissant de son iniquité, tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. » Oui, tout homme est comme un souffle. Vous sentez la lourdeur avec laquelle David parle. Alors il demande, verset 13, « Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes. Est-ce que c'est parce que je ne mérite pas ça? Je ne mérite pas ci, je ne mérite pas ça? » Non, il a dit, « Je suis muet. » Mais ne sois pas insensible à mes larmes. Tu es mon espérance, en toi, moi et mon espérance. Car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Quel verset pour conclure un tel psaume? Détourne de moi le regard. Comme s'il disait, Dieu, tu me châties beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne peux quasiment pas supporter quoi que ce soit de plus. Détourne de moi un peu le regard pour que je puisse finir ma vie que je puisse respirer. Fin de tour. Alors pour des semaines, je regarde ça et je me dis, je ne sais pas, Seigneur, je ne comprends pas quelque chose. Il me semble que c'est un psaume très intime. Je comprends que David ait pu prier une telle chose, mais ça serait dans l'intimité de sa chambre. Mais David, il écrit ce psaume, et il va voir, toc, 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 chef des chants, Jérusalem, tiens, publie ça. Seigneur, je ne comprends pas. Un tel psaume que psaume 40, je comprends. Bon, on va lire psaume 40. Au chef des chantres de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Vous avez déjà entendu ce psaume? Vous l'avez probablement remarqué? Vous l'avez peut-être relu plusieurs fois? C'est un beau psaume. Ça, que ce soit dans la Bible, psaume 40, ah, je comprends, Seigneur. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce ta justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Tellement un beau psaume qu'une partie est directement appliquée à Jésus-Christ, le Messie. Psaume 40. Je comprends que ça soit dans la Bible. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Ceux qui me disent, ah, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Ah, psaume 40. Seigneur, je comprends que psaume 40 soit dans la Bible. Et Seigneur, psaume 39, ça finit avec un verset comme « Détourne-moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille, que je ne sois plus. » C'est là que j'ai commencé à comprendre. Psaume 40 suit psaume 39. Quand on a lu psaume 39, psaume 40, waouh! Ah bah oui, c'est ça la raison, psaume 39. Ça nous aide à comprendre le fond de la boue. Ça nous aide à comprendre la lourdeur du châtiment justifié de Dieu. Ça nous fait comprendre qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps. Peut-être dans sa chambre quelque part perdue pour demander à Dieu, puis dire à Dieu, Dieu, je sais qu'il y a beaucoup de mal autour de moi. Je sais qu'il y a beaucoup de mal en moi. Je sais que moi-même, si j'ai besoin d'être rappelé, de ne pas juste vivre vainement comme les gens autour de moi, de juste vivre. J'ai besoin de me faire rappeler que je suis fragile, je peux partir n'importe quand, et que ma vie, elle est très, très, très petite. Et j'ai besoin de réaliser que tout le châtiment que tu m'infliges, j'ai pas d'excuse pour ça. J'ai besoin de te dire que tu es mon seul espoir, tu es mon seul espérance. Je n'ai aucune autre raison de vivre que toi. Il faut que ce psaume aussi soit publié pour qu'on comprenne que le psaume 40 d'un roi qui s'exprime à dire « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, puis il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. » Ah, un tel homme, ça vient de quelqu'un qui est brisé dans son cœur, qui réalise sa petitesse, ou qui ne le réalise même pas, qui demande à Dieu de lui faire réaliser. Un homme qui n'a mot à dire, il n'a rien à dire sur, oui, tes châtiments, elles sont justifiées. Mais Seigneur Dieu, je ne pourrais pas les supporter depuis longtemps. Et malgré que je sais à quel point je mérite tous les châtiments, je garde espoir parce que tu es Dieu. Mon seul espoir, c'est toi. Et là, de ce psaume très lourd, on comprend psaume 40. On comprend les psaumes 40 de la Bible quand on sait qu'il y a aussi les psaumes 39 dans la Bible. C'est comme les rayonnements. Vous savez, quand la lune brille, on ne voit pas beaucoup d'étoiles. Quand quelque chose cache la lune et le fond du ciel devient très noir, il y a des étoiles qu'on n'avait pas remarquées. Le fond noir de psaume 39 fait rayonner encore plus fort. On la voit encore plus fort, la louange qui peut ressortir de quelqu'un qui a été gracié, de quelqu'un qui savait qu'il était dans la fosse de destruction à cause de ses propres péchés, et Dieu a eu pitié de lui pour le mettre sur le roc. Le roc du Messie. Quelqu'un qui est léger dans ses pieds, on l'apprécie plus quand on réalise à quel point ses pieds étaient lourds quelque temps avant. On voit le contraste. Alors, ça m'a aidé à comprendre. Il y a un temps. Psaume 39 nous rappelle qu'il y a un temps. D'abord, ici, c'est le châtiment de Dieu, et Dieu est fidèle comme Père et grenouille. Il châtie celui qu'il reconnaît comme ses fils, ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Et peut-être, si vous vivez tout bonnement, et que vous n'avez jamais vraiment ressenti le poids de vos péchés, ou le poids d'un châtiment de Dieu, prenez conscience que Dieu veut vous faire l'un des siens, il veut vous sauver. Peut-être que vous n'êtes même pas conscient de la fosse de destruction dans laquelle vous êtes. Psaume 40, c'est plus dans le terme de
David, il parle en termes qu'il était, il s'est reconnu comme il était perdu. C'est pas l'aspect du psaume 39, là il était en tant qu'enfant de Dieu châtié lourdement. Psaume 40, c'est mis en encore plus grand contraste, c'est j'étais perdu dans la fosse de destruction. Je vais en aller dans l'éternité de perdition. Et Dieu a eu pitié de moi pour me sauver, pour mettre mes pieds sur le roc et pour mettre un cantique nouveau dans ma bouche. Psaume 40, un peu plus tard, on voit l'aspect de châtiment comme verset 13, etc. Mais là, au début, c'est encore le contraste encore plus grand dans la tête de David. Et peut-être si vous n'avez jamais goûté à vraiment la main de châtiment de Dieu, sentir la lourdeur de vos péchés, ben c'est par là qu'il faut commencer. On ne peut pas se convertir sans ressentir la lourdeur de ses péchés. Et Dieu, c'est avec raison qu'il veut qu'on prenne conscience de sa sainte colère contre le péché. Pas qu'il ne nous aime pas, mais il haït nos péchés, avec raison. En tant que père, ceux d'entre nous qui sommes pères, si nous voyons quelqu'un faire du mal à nos enfants, on va être fâché par-dessus mesure, c'est normal. Et Dieu qui nous a créés, il haït le péché qui se fait les uns contre les autres. Et il haït le péché qu'on fait contre lui. Est-ce que vous aimez voir, au loin peut-être, vous voyez une situation où ce qu'un enfant, il frappe son père, il dit non, je ne veux pas faire ça, je veux faire ci, puis il frappe. Je lui dis non, ton père, il t'aime, ta mère, elle t'aime, pourquoi tu te frappes, tu la frappes et tu cherches à te rebeller contre eux? Ben, là, nous avons frappé notre Créateur par nos péchés. C'est ignoble. Et donc, c'est justifié. Et quand on prend conscience de la gravité de nos péchés, ben Dieu veut qu'on prenne conscience de la gravité de nos péchés. Parce que pour le salut, le châtiment dont il est question, ce n'est pas nous qui nous châtions dans le contexte du salut. Dans le contexte du salut, qui a-t-il châtié pour nous sauver? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Jésus-Christ. Ah. Parce que là, il n'avait pas d'autre châtiment possible que la mort. Et s'il nous châtie de la mort, ça serait fini pour l'éternité. Alors Dieu, dans son amour, a fait tomber ce châtiment-là sur son Fils. Pas parce qu'il n'aimait pas son Fils. Pas du tout. Son Fils, aussi douloureux était la chose, le Père lui a confié ce travail très douloureux, avec aussi la promesse qu'il va vaincre la mort, parce que la mort ne pourrait pas le retenir. Et qu'il serait le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, la Lumière des Nations. Et le Père a confié avec amour ce travail incroyable que son Fils a bien voulu faire. Donc il a frappé son Fils, non pas parce qu'il n'aimait pas son Fils, mais justement par amour pour son Fils, pour lui donner ce privilège d'être le Sauveur de tous les hommes, l'offrir le salut à tous les hommes, et le Sauveur de ceux qui l'acceptent particulièrement. Donc, Dieu nous a aimés qu'il a frappé son Fils, et son Fils a accepté, et ensuite Dieu l'a exalté. Psaume 40, Jésus est venu faire la volonté de Dieu, c'est ça, cette partie-là qui cite Jésus. Mais donc, il y a un temps pour tout. Psaume 39, il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour de lourds châtiments, parce qu'après qu'on se convertit, vous savez-vous, on lutte encore avec le péché. Et Dieu sait que parfois on chute, et je sais, dans ma vie, parfois, oh là là, et parfois c'est lourd, c'est lourd. Alors Dieu nous a inclus psaume 39. Dieu a fait que David écrit ce psaume, et peut-être, je ne sais pas, là je suis complètement... peut-être que David avait mieux dit, Seigneur Dieu, je viens t'exprimer ça, mais non, c'est pas pour publier. Non, va le donner au chef des chantres, c'est pour être publié. Seigneur Dieu, ça ne pourrait pas être publié dans le journal. Le journal, c'est quelques personnes qui lisent aujourd'hui ou demain, mais la Bible, c'est le livre le plus lu dans le monde, le plus vendu, le plus publié pour toutes les générations. Et tu veux que je mette ce psaume, ma prière, et ça va être lu par tout le monde? Oui. OK. David, Dieu l'utilise comme un exemple, mais c'est nous, ça. Il y a un temps, donc, pour avoir de lourds châtiments, comme David parle. Et un temps aussi pour comprendre, Dieu a répondu à sa prière, Dieu lui a rendu ses pieds légers,
plus tard. Et Dieu lui a donné de pouvoir chanter de tout son cœur dans le psaume 40. Dans le psaume 39, il y a un temps de lourd châtiment, il y a un temps pour une profonde humiliation. Il y a un temps pour un questionnement et la réalisation de la brièveté de la vie. Il y a un temps pour être saisi, pour dire qu'est-ce que je fais ici sur cette terre, je pourrais partir n'importe quand. Qu'est-ce qui est important? Ben, ce n'est pas la famille, ce n'est pas les amis, ce n'est pas la carrière, ce n'est pas les objets, c'est rien. C'est Dieu. Oui, la famille devient importante au contexte de Dieu. Dieu, je t'aime, alors je voudrais gagner ma famille. Dieu, je t'aime, alors je voudrais gagner mes confrères de travail. Dieu, je t'aime, mais pas dans le contexte que c'est la famille qui prime. C'est Dieu. C'est seulement par Dieu que quiconque pourrait avoir la vie éternelle. Et donc, il y a un temps pour tout, pour comprendre la brièveté de la vie, pour être Seigneur, rappelle-moi, dis-moi quelle est la brièveté de ma vie. Il y a un temps d'avaler son orgueil, puis d'être bouche cousue devant Dieu, puis dire, ok Dieu, si je te demande de raccourcir tes châtiments, ce n'est pas parce que je le mérite, mais oh Seigneur Dieu, pitié. Il y a un temps de faire de lui son seul espoir, pour plaider qu'il baisse le volume, entre guillemets. Et ces temps-là sont suivis aussi par des psaumes 40. On va finir. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Je te prie que tu puisses encourager les cœurs. Seigneur Dieu, applique ces paroles au cœur de chacun selon le besoin. Tu comprends et tu vois et tu sais exactement ce qui se passe dans chaque cœur, la nature du cœur. Tu connais ceux que tu convies encore à se repentir et croire en toi fondamentalement pour le salut de leur âme. Seigneur Dieu, tu connais aussi les tiens que tu aimes et que, Seigneur Dieu, tu châties par moments, Seigneur Dieu, avec raison et pour nous rappeler non seulement les fautes de chuter face à toi, mais aussi d'être distrait par les choses de ce monde et d'être enclin à simplement vivre et oublier la brièveté de notre vie. Seigneur Dieu, donc, je te prie que tu puisses toucher chacun des cœurs et que chacun de nous qui sommes pères, qu'on puisse regarder à vraiment qu'est-ce qui compte dans la vie et de pouvoir être un père qui s'applique devant toi à se rappeler qui nous sommes et la brièveté de nos vies et que toi seul es celui qui vaut la peine de poursuivre, Seigneur. On te prie donc que tu puisses être avec chacun des pères ce matin, à mettre leur vie en règle devant toi et que tu puisses nous aider vraiment à t'avoir comme seul espoir et seule raison de vivre, Seigneur, on te prie. Qu'on puisse ensuite pouvoir aimer comme un père devrait aimer, qu'on puisse être un bon mari, Seigneur Dieu, et qu'on puisse pouvoir montrer un bon exemple de toi, Seigneur, on te prie dans ta grâce. Travaille dans chacun de nos cœurs, selon le besoin, en nom de Jésus. Amen.